Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. On rêve tous un peu secrètement de prendre le large, de tout plaquer et de vivre sa vie rêvée. Sophia, elle, a fait de sa vie un rêve éveillé. Née en Argentine et fille de diplomate, elle a toujours eu l'habitude de voyager, mais elle n'avait pas imaginé qu'un jour, elle allait parcourir le monde de cette façon. Avec son mari, Tom, ils sont ce qu'on appelle des aventuriers de l'extrême. Un métier qui implique forcément de s'éloigner du schéma classique métro-boulot-dodo. Ils ont choisi de vivre une vie nomade à bord d'un bateau pour découvrir les endroits les plus reculés du monde. D'abord en couple, et puis avec Jack et Léonore, leurs deux enfants. Sophia nous raconte comment elle est tombée enceinte en pleine mer et à quoi ça ressemble la vie à bord avec deux enfants en bas âge. Bonjour Sophia et merci d'avoir accepté de venir nous raconter ton histoire qui est donc loin d'être commune, hein, comme on va le voir ensemble. Est-ce que d'abord tu peux te présenter ?
Oui, bah déjà merci de me recevoir dans ton podcast, Anissa. Je m'appelle Sophia, je suis aventurière avec mon mari qui est sportif de haut niveau. On est dans le monde du sport extrême. Et ensemble, on a deux enfants, Jack qui a 3 ans et Léonore qui a 1 an.
Et donc, ton compagnon, ton mari, donc c'est Thomas Dorlodo. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un aventurier de l'extrême. Est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ça consiste en quoi ce métier finalement ?
Oui, donc Tom est pilote de parapente et sportif de haut niveau. Il a commencé sa passion quand il avait 15 ans et en fait, il s'est tout de suite rendu compte que via le sport, il pouvait atteindre déjà des endroits assez inaccessibles grâce au vent, grâce aux ascensions thermiques, sans motorisation en plus, et que c'était vraiment une bonne excuse de partir à la recherche des endroits les plus reculés, les plus perdus, pour après rapporter des images du contenu qualitatif et j'irais montrer le monde sous un autre œil et en même temps partager aussi la fragilité et la beauté de la nature et la nécessité de la préserver.
Et donc, est-ce que vous vous êtes rencontrés en voyage ou pas du tout ?
Alors, pas du tout, non. On s'est rencontrés au Belga, d'ailleurs. Un très bon spot aussi, les gens cherchent des rencontres. Au Belga, moi, je venais d'arriver en Belgique. J'avais 21 ans, lui en avait 27 à l'époque. Et je commençais mes études de communication. Lui était déjà bien, il avait déjà bien démarré sa carrière. Et on se rencontre au Belga, on commence à discuter, il y a un match. Et puis il part faire une grosse expédition en Afrique. Il devait traverser l'Afrique du nord au sud. Et moi, je continue dans mes études. Et quand il est revenu, donc évidemment, on avait un peu perdu contact. Mais quand il est revenu, il avait organisé une grande expo au Châtelain avec toutes les photos, toutes les images justement de ce voyage qu'ils ont fait avec son équipe. Et là, on se retrouve, on renoue un peu le lien. Et il m'a annoncé une semaine plus tard qu'il partait au Pakistan. Et c'est vrai qu'il me vendait tellement bien ce pays qui avait l'air fantastique. Et je lui dis à un moment donné, ça a l'air génial, pourquoi est-ce que tu ne me prends pas avec toi, mets-moi dans ta valise, une blague. Et en fait, il a pris super au sérieux, ce que j'ai trouvé après en fait, assez chouette, assez sympa. Il m'avait envoyé un message le lendemain matin avant de partir en me disant, écoute, j'en ai parlé à mes partenaires, si tu veux me rejoindre après notre expédition, évidemment, t'es bienvenue, je t'attends au Pakistan.
Trop bien.
Donc, c'était trop bien. Je me suis dit, waouh, au départ, c'était quand même un sacré voyage. J'avais déjà pas mal voyagé avant, mais c'était vraiment un premier voyage, je dirais, hors des sentiers battus. En plus, j'avais quand même vécu au Maroc, mais même, c'était toute une nouvelle aventure pour moi. Et surtout que, autant le voyage, j'ai beaucoup voyagé petite, avec un père diplomate, mais ce monde de l'aventure et du sport extrême, je ne le connaissais pas du tout.
Donc tu le découvres à ce moment-là avec Tom, avec qui tu es depuis une semaine, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Je le découvre à ce moment-là et au départ, moi, j'étais un peu stressée. Je ne voulais pas non plus être comme un fardeau parce que non, j'étais pas une sportive de base où je faisais plein de sports. Enfin, et finalement, je l'ai rejoint en haute montagne et tout s'est super bien passé. Et en une semaine, on a de nouveau, je pense que ce voyage nous a vraiment rapprochés parce qu'on était loin de tout le monde, pas d'internet, pas de resto, pas d'échappatoire. Et donc, le fait d'être constamment ensemble, on a, ça nous a, en fait, je pense qu'on a vécu l'équivalent de quelques mois de relation en deux semaines. Donc.
Et est-ce que c'est de là, du coup, qu'est née ta soif d'aventure, enfin, votre soif d'aventure, ou tu l'avais déjà depuis petite?
Oui, je crois que clairement, j'ai toujours aimé, évidemment, le voyage, mais grâce à Tom, j'ai pu vraiment découvrir aussi le monde du sport et le monde de l'aventure, avec un grand A, et ça m'a passionnée tout de suite. C'est vrai que je me suis dit, il y a tellement de quoi faire, et c'est tellement possible. Et là, le fait de me dire, c'est possible de vivre de ça ou de faire ça encore aujourd'hui. Il y a tellement encore d'endroits inaccessibles. Donc oui, c'était tout un monde qui s'ouvrait. Et là, je me suis dit, il faut y aller.
Contrairement à beaucoup de couples, on va dire, conventionnels, vous n'achetez pas une maison, vous n'achetez pas un appart. Vous décidez d'acheter un bateau, c'est ça?
Oui, donc c'est vrai qu'entre-temps, je pense qu'il y a 4-5 ans de relation où on vit beaucoup de voyages, etc. C'est vrai que lui, à ce moment-là, voyageait 9 mois par an, ce qui est quand même beaucoup. Moi, je devais terminer mes études aussi, donc je n'avais pas cette liberté de partir et le rejoindre quand je voulais. Et un jour, je passais la veille de mon examen, ou le jour même de mon examen, il m'appelle, il était en Polynésie française, à bord d'un catamaran. Ils utilisaient ce catamaran pour aller à la recherche des endroits les plus reculés en Polynésie, dans les Marquises et Tuamotu. Et il a eu un déclic, qui s'est dit, mais je sais que moi, évidemment, j'étais la montagne, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas grandi dans une famille où on a été mis sur des skis à 2 ans. Voilà, j'ai un peu le vertige. Je l'aime beaucoup, mais elle m'impressionne un peu. Mais par contre, la mer, ça, j'adore. Je peux passer ma journée dans l'eau. J'adore ça, le milieu marin. Et Tom, c'était plutôt l'inverse. Mais grâce à cette expédition, il s'est rendu compte qu'il y avait moyen de combiner les deux. Donc, il s'est dit, là, c'est jackpot, sauf elle termine ses études maintenant. On avait commencé déjà à travailler ensemble un peu naturellement sans s'en rendre compte, mais c'est vers là clairement qu'on allait. On formait déjà un peu une équipe. Et il m'a dit, j'ai trouvé la bonne combine. Qu'est-ce que tu penserais qu'on se lance dans cette aventure bateau? On achète un bateau et on utilise ce moyen de transport pour accéder à ces endroits vraiment incroyables. Et on a la mer, on a la montagne et donc tout le monde est content. Et là, évidemment, c'était... Je sais pas comment j'ai fait pour réussir cet examen, parce que du coup, il m'avait dit ça 5 minutes avant mon oral et c'était... J'arrivais plus à me concentrer. Là, tout d'un coup,
oui, évidemment.
Waouh. Mais effectivement, ça a été notre première... Toutes nos économies ont été mises pour ce bateau-là, qui était un petit bateau, un monocoque, un Jeannot Sunfast 40, qui était abandonné au port de Bruxelles depuis 7 ans en cale sèche. Mais quand on est allé le voir... Ben, il était dans un état vraiment pourri. Il y avait 1000 trucs à faire. Et donc, quand on a présenté un peu notre nouvelle maison à notre entourage, nos amis et même nos partenaires, je crois que les gens étaient un peu inquiets. Ils se sont dit, mais donc, ils vont couler, les pauvres, en fait. Donc, quoi est-ce qu'ils engagent?
Mais vous n'y connaissez rien en bateau, rien. Vis-à-vis des bases?
Non, pas du tout. Non, je ne viens pas pareil d'une famille voileuse, lui non plus. Par contre, on avait cette soif d'aventure, cette soif d'apprendre. Et en fait, ce qu'on voulait aussi, c'était ce qui se passait en Belgique, c'est qu'à chaque fois qu'il rentrait d'une expédition ou que moi, j'allais le rejoindre, donc il y a un moment très intense où on vit l'aventure et puis on rentre en Belgique. Et là, en fait, c'est un peu plus plat. C'est génial parce qu'on retrouve la famille, on retrouve les amis. Il y a un côté hyper confortable qui est formidable en Belgique. Mais en fait, ça partait beaucoup d'un extrême à l'autre. Mmh. Et là, ce qu'on cherchait, c'était plutôt vivre une aventure un peu à temps plein. Et c'est vrai que sur un bateau, on est toujours exposé à l'inattendu, à des surprises, et être confronté aux éléments. Et en fait, ce qu'on aime, c'est d'or. C'était vraiment le meilleur moyen de vivre ça.
Est-ce que quand toi, tu étais enfant, tu avais imaginé que tu allais vivre ce mode de vie-là, en fait?
Je pense que il y a toujours évidemment un fantasme quand on est petit, on se dit, ah, mais ma vie de rêve, je voulais faire plein de choses, mais ça faisait partie clairement d'un peu ma waouh, si je pouvais choisir, je mènerais cette vie-là d'aventure. Mais non, c'est vrai que jusqu'à ce que je rencontre Tom et qu'on commence à travailler ensemble, et déjà voir que lui menait cette vie-là depuis quelques années, je ne pensais pas qu'il était encore possible. Parce que même pendant mes études, c'est tout ce qui était réseaux sociaux, Instagram, ça faisait que commencer. Donc, les influenceuses, Instagrammeuses, tout ça, c'était vraiment le début de tout ça. Mais non, clairement, je faisais encore mes recherches après, avant de terminer mes études, dans qu'est-ce que je vais où est-ce que je vais travailler, j'ai fait communication, est-ce que voilà, je me suis dit c'est non, j'ai jamais cru que ça pouvait être possible.
Oui, tu pensais vraiment finalement finir un peu dans une routine un peu classique, quoi,
Bien
si on
sûr,
veut.
oui, bien sûr.
Alors que là, pas du tout.
Alors que là, pas du tout.
Là, aujourd'hui, à quoi ressemble votre mode de vie?
C'est très chaotique, mais finalement, c'est là où on a notre meilleur équilibre. C'est un peu bizarre, mais au plus, il y a pas une journée qui se ressemble. Donc, chaque journée est différente, peu importe, même avec où sont les enfants, il y a toujours des imprévus, un voyage qui surgit, une opportunité. Et comme ce que Tom fait et ce qu'on fait ensemble, dépend beaucoup des éléments. Donc, s'il fait super beau, il y a les bonnes conditions pour aller faire un vol en parapente, même en Belgique, ben, il faut y aller. Et c'est toujours un peu très dernière minute. Donc, on a appris vraiment à vivre dans le moment présent, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, chaque journée sont différentes. Mais, ouais.
Vous devez vous adapter oui, à la nature, quoi.
On
Vous
doit
vivez.
s'adapter aux éléments, on doit être très flexible aussi avec en fonction des opportunités qui se présentent, d'un travail, d'un voyage. Donc, on est toujours un peu attentif à ça. Et notre maison, ça ressemble vraiment à un camp de base. C'est un peu notre endroit où on a notre table de salle à manger, c'est aussi notre bureau, mais c'est aussi le lieu où on se retrouve en famille. Donc, en fait, tout a un peu un double rôle parce qu'on est aussi beaucoup sur. On passe d'un truc à l'autre.
Quand est-ce que du coup est venu le projet bébé dans tout ça?
Finalement, il est venu assez vite. Bon, déjà, avant de se marier, déjà, quand on décide de se marier, c'est qu'on sait que finalement, ben, le projet bébé va s'enchaîner parce qu'on avait tous les deux envie aussi de fonder une famille. Par contre, on était tous les deux d'accord, et ça, on avait aussi longuement discuté, que il fallait être sûr que tout le monde soit tous les deux sur la même longueur d'onde, que notre mode de vie ne pouvait pas changer, parce que ça reste quand même notre métier, c'est notre gagne-pain, il faut qu'on voyage, et on veut pas, surtout, on ne voulait pas tout arrêter parce qu'on avait des enfants. Donc, très vite, on a eu ce discours que les enfants allaient s'adapter un peu à notre rythme, qu'on allait tout faire pour qu'ils soient bien et effectivement aussi prendre des mesures de sécurité et tout, mais on voulait leur transmettre ce message de il est possible de vivre de sa passion, les éveiller au contact de la nature. C'était pour nous des bases assez fondamentales au sein de notre famille. On voulait que nos enfants soient baignent dans cette nature et dans cette vie d'aventure. C'est un peu quelque chose qu'on veut leur apporter et qui, j'espère, va leur plaire.
Mais donc, à aucun moment, quand tu tombes enceinte, vous remettez en question votre projet. Ça, c'était hors de question.
On ne remet pas en question notre projet. Après, c'est vrai que une chose, c'est le discours qu'on tient avant, mais moi, j'ai jamais été maman avant. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un bébé, je ne sais pas ce que c'est d'être enceinte. Donc, forcément, même quand je tombe enceinte et qu'on se retrouve peut-être quelques semaines, quelques mois après, dans des conditions, voilà, un peu fortes en mer ou alors où je sais que je n'aurai pas de contact pendant 2 semaines, pas un réseau convenable, là, évidemment, bien sûr que je me dis, mince, et si jamais, et si jamais, si, et s'il y a un problème, et si, et si. Mais tout de suite, quand je suis tombée enceinte, que j'ai pu faire mes tests, mes prises de sang, et que tout allait bien, et que mon médecin m'a dit, écoute, tu es en bonne santé, le bébé aussi, être enceinte, c'est pas une maladie. Vis ta vie, et puis si jamais il y a le moindre quoi, qu'on était encore en Europe, on était encore à un vol pour en revenir à la maison. Et j'essayais vraiment de pas non plus me plonger dans. Dès que j'avais un peu, évidemment, ça tombe le soir quand il pleut et qu'en mer ça secoue, là évidemment tu penses au pire, mais je freinais tout de suite mes pensées, je me disais non, 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 arrête, tu peux pas commencer à t'imaginer des scénarios, c'est essayer d'aller à l'encontre de ça, tout va bien et voilà, et finalement, on a fait 9 mois à bord et ça a été. J'ai survécu, le bébé aussi.
En étant enceinte, tu as quand même ton ventre qui commence à prendre de la place, etc. Tu es restée toute ta grossesse à bord. Comment tu vivais ça?
Ouais, c'est sûr que dans des petits espaces, plus un ventre, on est vite pas très confortable. Je pense on essayait de pas se mettre dans un rythme complètement effréné ou on enchaînait 1000 trucs, même si ça a été quand même une année assez intense entre les athlètes qui arrivaient, la production et tout. Mais je suis restée à l'écoute de mon corps aussi. Et quand je voyais que c'était trop, bon, ben, moi, je levais un peu le pied. Et je faisais, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, soit je m'occupais plus d'une partie qui me permettait d'être un peu plus stable, un peu plus peut-être au calme. Et quand j'avais envie de bouger, que je pouvais marcher parce que ça me faisait du bien, ou nager, bah, je le faisais. Mais j'essayais de, oui, surtout d'être un peu à l'écoute de mon corps et pas me mettre dans des situations qui pouvaient après me mettre mal ou même en danger.
Oui, tu avais quand même tes rendez-vous médicaux, notamment les échos. Quand tu revenais alors en Belgique, tu t'arrangeais pour les faire à ce
oui.
moment-là ?
Je m'arrangeais pour revenir en Belgique à des moments un peu stratégiques pour combiner des rendez-vous échographie, un peu de boulot aussi, évidemment la famille. Je voulais, pour moi, c'était aussi important de partager ce moment, cette grossesse avec mes proches, avec ma famille. Je voulais que ma mère me voie enceinte, mes copines aussi. L'échange est tellement génial que je ne voulais pas le garder que pour moi, les Tom. Donc, j'étais toujours contente de revenir un peu à la maison et de partager ça avec elle. Sûr.
Et justement, est-ce que tu as des regrets par rapport à cette première grossesse que tu as passée donc, quasiment exclusivement à bord, le fait de ne pas pouvoir l'avoir partagée avec ta famille et tes proches ?
Mais pas tellement, parce que finalement, comme j'avais l'occasion, j'ai eu certaines occasions de revenir, ou alors des amis qui venaient nous voir à bord, ça, j'ai pu avoir ce moment de « ok, ils m'ont vue enceinte, c'est bon ». Et c'était encore évidemment à l'époque où bon, maintenant… c'est fini la pandémie, on n'en parle même plus, mais on voyageait assez facilement, donc j'ai pas vraiment de regrets à ce niveau-là. J'étais contente surtout en fait de pouvoir être en mer, de pouvoir nager, de pouvoir en fait avoir une grossesse super saine dans un environnement super sain aussi.
Oui, parce que là tu es en connexion totale avec la nature, quoi.
Complètement, ouais. Donc c'était un espèce de yoga permanent. Enfin, je veux dire, je pouvais pas être plus stressée que ça non plus. Donc, je voyais que Tom aussi, à ses yeux, il était à l'aise. Il me soutenait là-dedans. Il voyait que j'étais bien. Je le voyais bien aussi. Donc, tout ça évidemment jouait.
Comment ça s'organise donc la vie sur un bateau ?
Je vais dire que au plus c'est petit, au plus c'est facile à gérer. Quand on est revenu pour l'accouchement, tout s'est bien passé. C'était fin décembre, 4 semaines plus tard, Jack avait 4 semaines du coup, on est retourné sur le bateau.
Ah oui.
Il était à ce moment-là dans les galeries. Et il était tout petit, c'était une croquette, mais c'était super simple. Parce que déjà, en Belgique, il faisait super froid, c'était en plein hiver. Là-bas, où le bateau était dans les Canaries, il faisait bon, il faisait assez chaud. Donc, même moi, pour récupérer, c'était assez agréable. Et Jack était tellement petit que j'avais l'allaitement qui s'était bien mis en place. Ils ne bougent pas, ils ne savent pas rouler, ils ne savent pas. On les pose au milieu de notre cabine et ils ne bougent pas. Donc finalement, les débuts ont été assez faciles. Et là, je crois que la vie est bien faite, parce que si on avait commencé avec le plus dur, bah là, c'est clair que waouh, c'est une sacrée logistique, c'est énormément d'énergie, forcément. Mais donc là, on a vraiment eu le temps de démarrer en douceur. Et je pense que c'est aux alentours à partir de ces 11 mois, un an et demi, où là, vraiment, il y a une sorte de... où tu es vraiment à 50 cm de lui en permanence, parce qu'il veut l'explorer partout, ça grimpe partout, il se dépasse à quatre pattes, ou il commence à marcher. Et ils n'ont pas encore trop la notion du danger. Et même s'ils commencent un peu à l'avoir, bah, ils peuvent trébucher, ils n'ont pas encore peut-être une full maîtrise encore de leur corps. Et ça, c'est ce qui a été le plus prenant en termes d'énergie et même une sorte de fatigue aussi un peu mentale, parce que on est loin de notre famille, on n'a pas d'aide, on ne peut pas appeler une babysitter comme ça, ni mes parents, les beaux-parents. Donc, on a fait avec. Heureusement, c'était un petit garçon qui était en pleine santé et tout allait bien. Mais voilà, c'est juste qu'il demandait beaucoup d'énergie. Alors là, on profitait peut-être plus de sortir du bateau ou d'explorer un endroit et pas se retrouver enfermé avec un petit en bas âge, plutôt que de faire des énormes, voilà, des très longues traversées, même si on a traversé l'Atlantique quand il avait 11 mois. Donc ça, c'était vraiment la grande aventure sur bateau avec lui.
Vous êtes partie en mer 4 semaines seulement après l'accouchement. C'était pas trop compliqué, parce que t'as quand même encore un peu les suites de l'accouchement, quoi, à ce moment-là.
Ouais, mais en fait, c'est marrant, parce que quand je suis rentrée de la maternité, il m'a fallu peut-être une semaine pour un peu vraiment réaliser ce qui m'arrivait. Et j'étais super contente, j'étais Évidemment, waouh, c'était assez magique, mais en même temps, il y avait, j'étais quand même un peu paniquée aussi. J'irais peut-être un petit baby blues, mais pas vis-à-vis vraiment de Jack, parce que j'étais hyper contente, la défense s'est bien mise en place et tout, mais plutôt de me dire, oh, il est tellement petit, en fait, tous les discours qu'on tenait avec Tom, de « ouais, il va nous suivre », et ben, tout d'un coup, tu les remets un peu en question. Et c'est très déstabilisant quand, tout d'un coup, voilà, tout ce dont tu t'es dit et tu t'es juré, et vraiment, tu te projetais comme ça, ben, tu dis, oh, et si, en fait, c'est pas une énorme bêtise, ou est-ce que je suis vraiment... Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je me sens capable d'embarquer un enfant dans cette vie? Ouais, donc c'était un peu bouleversant, un peu bouleversant.
C'est vrai que tu te dis, oula, mais est-ce que cette vie nomade, ça va le faire, quoi? Mais à oui. ce moment-là, est-ce que Tom, il est aussi, il a des craintes, ou à ce moment-là, lui, il te rassure, il te dit non, mais t'inquiète, Sophia, ça va le faire.
Lui, il a toujours été hyper sûr. Il a jamais douté, il a jamais. Donc lui. Le discours n'avait jamais changé, mais il était à l'écoute de mes craintes à moi, et il me disait, la seule chose qu'il pouvait me dire, c'était, écoute, si toi, tu ne le sens pas ou ça ne va pas, alors oui, on trouve une solution, on change ce qu'il faut changer. Enfin, donc, j'ai aimé aussi ne pas me sentir, ne pas être sous pression ou me sentir mal, ou tu vois, ou tout d'un coup, ouais, de dire, en fait, j'ai mes craintes et j'ai le droit de les dire à haute voix et de les partager aussi, ben, l'homme de ta vie, le père de ton enfant, ton mari, ton tout, dire bon bah ok, voilà comment je me sens. Donc et c'est que quand je suis partie de la maison et que j'ai remis le pied sur le bateau, où tout d'un coup j'ai retrouvé un peu mon chez moi à bord, que tout était familier, en fait là j'ai vraiment repris confiance. Et puis Tom aussi était là, il dit en fait ça va, tout va bien, on va faire ça en douceur. Et comme je disais avant, il était petit, donc il ne demandait pas, à part nourrir, le changer, c'était pas, il était toujours collé à moi, en porte-bébé ou quoi. C'était pas, c'était une manière, vraiment une entrée en douceur pour la suite. Et ça, ça m'a, ouais, dès que j'ai remis le pied à bord, tout est parti, toutes les craintes, toutes les peurs, tout ça, c'est...
Est-ce que justement, tu peux nous expliquer cette traversée? Ça devait être incroyable.
C'était vraiment incroyable. C'était magique, c'était... Nous, ce qu'on a fait pour être sûr que ça se passe bien, c'est que on a des Canaries, on est parti au Cap-Vert. C'était une nave de navigation de 3 jours. C'était idéal pour vraiment une sorte de teaser, un trailer de comment s'annonçait sa traversée, comment est-ce que je me sentais à bord avec lui. Finalement, on avait un peu réparti les rôles où Tom gérait beaucoup le bateau, moi, Jack. Et on avait une équipe de prod à bord et qui eux aidaient aussi toujours un peu à côté, que ce soit pour la cuisine, etc. Donc chacun avait un peu ses rôles. Mais je passais quand même beaucoup de temps à l'intérieur de notre bateau, un peu dans le cale, quoi. Enfin, oui. Dans la cabine. On sortait un petit peu, mais comme notre bateau est à la base est taillé pour de la régate, il n'est pas vraiment équipé pour être assis et pas gêner les manœuvres. Donc il fallait être. Je passais beaucoup de temps à l'intérieur. Donc. Finalement, même si Jack allait bien, que moi aussi, personne n'était malade, j'ai vite voulu reprendre certaines de mes positions, de mon rôle aussi sur le bateau, à gérer le bateau, parce que pour moi, c'était un break déjà, pouvoir sortir un peu, pouvoir être à la barre, pouvoir faire mes quarts, c'est mon moyen de déconnexion.
T'es ouais. obligé d'être H24 enfermé dans la cabine.
Ouais, et Jack ouais. en plus, c'est un bébé qui il était top et tout, mais il dormait vraiment très peu, donc... À chaque fois qu'il se faisait une power nap de 20 minutes, c'est tout de suite, bon, ok, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je me mets à la barre? Est-ce que je cuisine? Est-ce que je regarde un film? Mais bon, ça fait partie aussi de ces souvenirs qui ensuite, évidemment, te rapprochent. Tu dis, bon, mais on l'a fait. Et tant que l'entente à bord était bonne et que tout le monde, voilà, parce que sur un bateau, on ne peut pas se permettre de jouer un rôle, tout le monde doit être bien. La bonne humeur est très contagieuse, donc il fallait que tout le monde, bon... aussi mettre du sien. Tom, il m'a aussi énormément aidé avec Jack pour que je puisse aussi souffler un peu. Et du coup, pendant qu'il s'occupait de Jack, ben moi, je pouvais un peu gérer le bateau. Donc, c'était un vrai travail d'équipe et ça n'a fait que nous souder. Donc, ouais, une belle expérience.
Et ça a duré combien de jours, du coup, cette traversée?
14 jours.
Ah oui, quand même, ouais, 14 jours.
Même.
Et même Jack, à ce moment-là, donc il avait 11 mois, c'est ça? Mm-hmm. Ça allait, il faisait pas des crises ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, ça peut vite arriver, finalement.
Ouais, ça peut vite arriver.
Ils sont quand même très éveillés, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr. Bah non, finalement, ça allait. On avait, j'avais fait un stock, évidemment, de livres, le truc, la pâte à modeler. J'avais vraiment full activité à faire. Et donc ça a été, peu importe ce qu'on faisait, c'était une activité, c'était un moment pour lui de jouer, de... Et c'est drôle parce qu'il y a une sorte de routine aussi qui se met en place. Il devient familier avec ça et donc ça va. Ce qui a fait bizarre, c'est quand on est arrivé de l'autre côté, c'est d'un coup de marcher. Au départ, les premières heures, on a des jambes super lourdes parce qu'on a marché dans des espaces tellement petits pendant 14 jours que c'est comme si tout d'un coup, nos muscles avaient fondu. C'était,
oui, c'est bien. Ça.
Lui, par contre, comme il grimpait, il était plus du genre à s'agripper. Lui, en fait, il continuait. Il était très actif la journée. Nous, c'est plus les bras qui travaillaient que les jambes. Mais...
Jack, ça lui a appris beaucoup de choses, ce mode de vie nomade que vous avez eu pendant ce dernier mois.
Oui, ouais. Son éveil, très débrouillard, très dans le milieu aussi du bateau. C'est un milieu super, très solidaire aussi. Il y a beaucoup d'entraide et... Le fait de l'avoir exposé à ça, c'est un petit garçon qui adore bricoler, qui adore voir comment font les autres, qui adore partager un peu ce qu'il a vu. Ah, mon papa ou ma maman a fait ci. Et surtout, l'éveiller au contact de cette nature, il pourrait jeter un papier plastique dans la mer, il sait, parce que voilà, sinon les tortues le mangent et c'est pas bon. Hein.
Oui.
Donc, quand même, quand il était tout petit, avant même qu'il parle. Dans la coque du bateau est tellement fine, je crois qu'elle fait 3 cm d'épaisseur, et pendant la navigation on entend parfois les dauphins, et lui à l'intérieur il reconnaissait déjà le son du dauphin, alors il s'excitait comme ça et on comprenait que c'est parce que les dauphins étaient là, donc on sortait effectivement, ils étaient là, alors il regardait, il poussait des cris, il était tout content, donc c'est magique, ouais, c'est génial de le voir grandir dans des conditions pareilles.
Combien de temps après arrive la petite Léonore? Du coup, tu tombes enceinte combien de temps après?
Eh bien, je tombe enceinte 2 ans et 3 mois plus tard.
D'accord.
Ils ont 2 ans et 3 mois d'écart, quelque chose comme ça.
Ok.
Donc, quand il avait plus ou moins 1 an et demi, ou un petit peu moins d'1 an et demi, là, je retombe enceinte.
Et donc, c'était voulu également?
Oui, c'était vraiment... Alors, peut-être qu'un mois avant, j'étais encore... Non, je ne me projetais pas encore avec un deuxième, même si je savais que ça allait arriver. Mais on venait de débarquer en Belgique, on ne savait pas pour combien de temps. Avec Jack aussi, qu'entre-temps, on a été tellement dans un cercle, Tom, Jack et moi. Redécouvrir aussi un peu une nouvelle routine où on est à la maison, où on a de l'aide, où on a une crèche, où on a tout ça, c'était waouh. Et en fait, pendant que Tom traversait l'Atlantique en solitaire, on s'échangeait des messages, je pouvais lui envoyer des mails, c'était sympa parce que finalement, ça me rappelait beaucoup le début de notre relation quand il partait beaucoup à l'étranger et qu'on s'écrivait. Donc, on avait retrouvé un peu aussi une sorte de nouveauté et on était juste tellement contents de se retrouver que, en fait, dans un de ses mails, il a dit « Ok, j'ai tellement hâte de vous retrouver, de te revoir et voilà, on va refaire un deuxième parce que finalement, la famille, voilà, tu pars vraiment dans... » C'est comme si tu retrouves tout ce qui est vraiment essentiel, ressort fort à ce moment-là, est amplifié peut-être x10. Et du coup, voilà, quand il est revenu, c'est un peu, je crois, le cadeau de la retrouvaille. Léonore en chemin.
Et donc, à ce moment-là, le deuxième devient une évidence, quoi.
Le deuxième devient une évidence et je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait venir. Autant avec Jack, c'est arrivé tout de suite. Je me suis dit, peut-être que pour un deuxième, je ne sais pas. Et je n'étais pas non plus super pressée non plus. Mais ça a été pareil, direct, et donc on était hyper contents aussi. C'était la belle surprise, vraiment le vrai bébé retrouvaille et de la transatlantique. Donc c'était génial aussi de se projeter, de dire bon, voilà, en profitons-en. C'est vrai qu'on aimerait à choisir, on serait sur notre bateau, mais voilà, la vie est comme ça. On a appris à être flexible de par notre boulot, de par tellement de choses, tous les éléments, qu'essayons de voir le bon côté des choses et profiter de l'aide, de la crèche, de la maison, ouais, de prendre une vraie douche et ouais, voilà.
Oui, tous les petits conforts en fait que tu oublies un peu à bord, quoi.
Que tu oublies complètement à bord, que tu n'as pas à bord, et quand tu les retrouves chez toi, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Une machine à laver, un lave-vaisselle, tout d'un coup, c'est un luxe total. Tu apprécies vraiment les choses simples. Ouais, ça fait du bien. Je crois que tout le monde devrait de temps en temps lever le pied ou partir au camping et c'est vrai que ouais, réapprécier un peu ce qu'on a. Léonore, je suis tombée enceinte juste en mai 2020, donc juste après, en fait, quand toute la pandémie a démarré. On était dans les îles du Caraïbe, à Antigua et Barbuda. Au mois de mai, moi, j'ai dû trouver un vol de rapatriement pour rentrer en Belgique. Et Tom a dû naviguer en solo, retraverser l'Atlantique tout seul pour amener le bateau aux Açores. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas ce qui allait se passer, combien de temps ça allait durer. Si on laissait le bateau tout seul là-bas, déjà, rien que dans la zone où on se trouvait, on n'est pas protégé par une assurance parce qu'on n'est pas saison des cyclones et on est dans une zone cyclonique. Donc, il fallait qu'on bouge, quoi qu'il arrive, le bateau. Mais est-ce qu'on le laissait tout seul, sans savoir quand est-ce qu'on allait le revoir? C'est notre outil de travail, c'était notre maison principale. Donc, c'était beaucoup trop de risques. Alors, moi, j'ai trouvé un vol rapatriement avec Jack. Tom a traversé l'Atlantique et à son retour, je suis tombée enceinte. Et donc, il avait en plus, je pense que 8 mois, 10 mois plus tard, une grosse compétition en parapente dans les Alpes. Et il fallait qu'il soit, du coup, proche des montagnes et beaucoup s'entraîner. Donc, finalement, le bateau entre... les restrictions, les frontières fermées, plus la compétition de Thomas, on était plutôt, je dirais, il fallait, ça faisait sens pour nous d'être à terre plutôt qu'en mer. Et donc, en fait, ma grossesse s'est faite un peu dans le confort d'une maison, avec Jack qui a découvert la crèche et l'aide des grands-parents, parce que tout ça, évidemment, je n'avais pas quand Jack était à bord. Et d'un autre côté, c'est vrai que ça me manquait terriblement. Je pense qu'on... Comme, en fait, dans tout, il y a des bons et du moins bons, des avantages, des inconvénients. Mais c'est vrai que là, bon, j'avais... Tout était beaucoup plus simple, mais je n'étais pas chez moi. Et ce chez moi, c'était le bateau. C'est là où je voyais que Jack aussi était heureux. Ouais, c'était notre élément.
Après, Léonore, tu n'as pas eu de baby blues ou un postpartum compliqué?
Pas du tout. Non, pas avec elle. C'est comme... Avec un deuxième, je pense que c'est plus simple. En termes d'attente, je savais un peu comment... Je savais quelles avaient été peut-être les petites difficultés avec Jack, avec la montée de lait qui avait été douloureuse, peut-être qu'il dormait très peu. Donc, en fait, j'étais prête à... Je savais ce qui m'arrivait. Le bon comme aussi le côté plus challenge. Et finalement, bah, tout s'est bien passé. J'ai tout de suite un peu retrouvé les bons réflexes. Et ça a été, en fait, c'était assez... Oui, très agréable, en fait, parce que tout d'un coup, tu profites autrement... Ça reste magique, ça reste finalement aussi, même si tu es déjà tombée enceinte et que c'est toujours une sorte de première fois parce que c'est toujours nouveau, une grossesse n'est pas forcément la même, un accouchement pas le même, les bébés ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est découvrir ce bébé qui voilà. Bon, donc, ça reste magique. Ça. Je pense que c'était plus facile que la première fois.
Mais tu n'avais pas la nature pour t'entourer et pour...
Non, mais j'avais autre chose.
Tu nageais pas avec les dauphins à ce moment-là. Quoi.
Non, c'est ça. Mais j'avais autre chose. C'est vrai qu'en Belgique, on ne peut vraiment pas se plaindre. On est quand même dans un pays où on manque de rien. C'était pendant l'été, donc on profitait de la campagne, on profitait d'autre chose. Et finalement, ce que je me disais, c'est que toute notre vie, le bateau, on est parti, c'est devenu un projet de vie, donc... On va naviguer avec les deux enfants. Léonore aura plein d'occasions de remonter à bord, de vivre la vie en mer. Et c'est cool aussi, chacun aura eu un peu son histoire et leur rapport avec la nature reste tout aussi fort.
Et là, depuis qu'elle est née, elle a déjà eu l'occasion d'aller sur le bateau, Léonore?
Oui, quand elle l'avait déjà, je pense que vers ses 3 mois une première fois. Et encore, elle était passée vers ses, je crois qu'elle avait peut-être 6 mois, 9 mois. Oui, elle a un peu navigué, elle a un peu... et pareil, comme tous les enfants sont super... c'est encore une fois un nouveau monde qui s'ouvre aussi pour eux, des choses qu'ils ne connaissent pas. Et un bébé, c'est toujours ultra... ça s'éveille justement avec ces nouveautés-là. Alors je voyais qu'elle ouvrait grand ses yeux, que tout, elle regardait partout.
Et elle s'est bien adaptée comme Jack alors?
Comme Jack, oui, super bien, super bien. Et alors, Jack, comme il est déjà plus grand et plus conscient, donc quand il passait plus de temps du coup avec Tom sur le pont, parce que lui il veut tenir la barre, il veut faire évidemment comme papa, comme maman, comme il nous voit faire, donc il veut le faire aussi. Et donc finalement, oui, c'est ça, Tom était beaucoup avec Jack, moi j'étais beaucoup avec Léonore, et puis de temps en temps on échangeait quand moi je reprenais, il fallait que je reprenne la barre ou un peu aussi mes quarts, et on inversait comme ça les rôles. Donc ouais, non, c'est chouette, finalement, ça se fait. C'est juste une machine à mettre en route et après, ça se fait tout seul, les automatismes.
Et là, aujourd'hui, à quoi ressemble donc votre mode de vie? Donc, vous continuez de temps en temps à faire des petites traversées avec le bateau et vous êtes la majorité du temps en Belgique. Comment ça se passe?
Alors maintenant, le projet a a pris une plus grande ampleur, donc ce qui est vraiment génial et ultra motivant pour nous. Donc le bateau actuel, en fait, on l'a vendu récemment, il y a 2 semaines. Et on est sur un nouveau projet de bateau. On va construire en 2023 un catamaran d'expédition fait à base de canettes recyclées. Okay, donc on est vraiment sur un projet plutôt à économie circulaire. Et très on voulait durable. Aussi faire très durable. On voulait un projet qui fasse sens, surtout que même si on a vu énormément de paysages magnifiques et la nature est belle, on a vu à quel point, oui, on était confronté à le plastique dans les océans, dans les plages, le microplastique, la surpêche, trouver des bouts de requins coupés en deux. Vraiment, on a aussi vu des choses horribles et c'est là, c'est la réalité. À force d'être en contact avec cette nature, on voit aussi tout le danger. Donc, quand on sort avec ce nouveau projet, il faut clairement que le côté sustainable soit...
Vous êtes quand même l'exemple, même que la vie ne se résume pas à métro, boulot, dodo. Si tu avais des conseils à donner aux gens qui se trouvent toujours un peu enfermés dans leur routine et qui n'osent jamais sortir de leur zone de confort, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Bah déjà que tout est faisable, que tout est possible, il faut juste un peu s'organiser. Et que la peur, ça fait partie, c'est normal, ça fait partie aussi des grandes décisions. C'est vertigineux, il y aura peut-être des gens dans notre entourage qui ne seront pas d'accord, qui seront inquiets, donc... Le plus important, c'est de tenir en compte un peu son avis, de s'organiser. On n'est pas obligé de tout plaquer. On n'est pas obligé de passer d'un extrême à l'autre. On peut très bien vivre des moments, vivre une aventure, mais sans que ce soit notre vie. On peut partir, faire des longs week-ends, aller camper, aller faire du kayak. Il y a plein, en Europe, on dispose de tellement d'endroits, rien quand même en Belgique, d'endroits magnifiques où on peut un peu s'évader, où on peut retrouver ce contact avec la nature. Mais ceux qui veulent vraiment faire le pas et dire « bon, on se donne un an ou plus », eh bien, faites-le, surtout faites-le, parce que ça en vaut la peine. Et n'écoutez pas les personnes qui vont vous dire que non, que c'est une mauvaise idée, parce que non, finalement, la vie est trop courte. Et on peut toujours se réinventer après. Il y a toujours moyen même de s'organiser pour retrouver peut-être la vie qu'on avait un peu avant dans notre travail. Oui, ce serait dommage de fermer, de se claquer la porte en disant « non, c'est pas fait pour moi, pour ta... non, finalement, c'est à portée de main tous, mais c'est vrai qu'il faut un peu écouter ses peurs et puis trouver des solutions. Bon, bah, ok, qu'est-ce qui me fait peur ? Est-ce que c'est le perdre mon travail ou une question de santé ou financière ? Donc, et tout ça, aborder chaque angoisse, chaque peur, essayer de trouver la solution pour partir l'esprit léger.
Vous avez quand même encore vous-même des peurs.
Mais en fait, nous, c'est un peu l'inverse, on a plutôt peur de se retrouver enfermé, de plus justement se dire ah, mince, ce serait dommage de perdre ce bateau ou que ça se fasse pas. Mais je pense que on trouvera toujours une manière de partir, de s'évader, que ce soit en van, peu importe, en backpack. Il y aura toujours, il faut juste ouvrir la porte et partir. Mais des grosses angoisses comme ça, actuellement, non, plutôt la santé des enfants, que tout le monde aille bien.
Je pense qu'en tant que maman, des fois, tu as besoin de conseils, des fois, tu n'en as pas besoin parce que tu aimes bien suivre ton instinct. Mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise, que ce soit pour tes grossesses, pour tes accouchements, pour aller ton rôle de maman ?
Moi, j'adorais écouter les témoignages de mes copines qui étaient déjà maman. J'adorais qu'elles me racontent tout, qu'elles ne m'épargnent aucun détail. Mais je savais que chacune a son histoire, on est toutes différentes. Et donc, ce qui me saoulait un peu plus, c'est quand on me disait « Ah, tu vas avoir que ça !» ou « Tu vas te sentir comme ça !» je ne sais pas, parce qu'on est différentes. Mais par contre, oui, raconte-moi comment toi, tu l'as vécu, qu'elles ont... Parce que du coup, ouais, j'absorbais un maximum. Et quand ça a été mon tour, de temps en temps, je pensais à une anecdote ou à un conseil. « Ah oui, elle avait eu ça, elle avait réagi comme ça. » Donc en fait, c'est génial de partager. Vraiment, le partage, c'est la clé pour être justement préparé, pour éviter peut-être des mauvaises surprises. Et ça n'enlève rien à la magie de ta première fois, de ta découverte, de toi, de te découvrir en tant que maman aussi. Donc, chacune son expérience et après aussi se faire confiance, à soi. Ce qui fonctionne super bien pour l'une ne fonctionne pas du tout pour l'autre et pas un mode d'emploi, sinon ce serait tellement simple. D'ailleurs, c'est dommage. Mais on ne peut que écouter, respecter évidemment les choix de chacune et se soutenir plutôt créer une sorte de, plutôt que de se mettre. C'est plus chouette de partager justement et voir quand il y a des différences, comment chacune s'en sort. Il y a toujours du bon à prendre.
Et ben, merci beaucoup, Sophia, du coup, d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir.
Merci à toi, Anissa. Merci beaucoup.